De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Toujours dans le 21e siècle, mais dans une nouvelle décennie. Et croyez-moi, on va marquer le coup, puisqu'on va vous parler eh bien, des films que l'on a particulièrement appréciés au cours de cette décennie. Et on aura aussi l'occasion de jouer à un blind test sonore. On vous fera écouter 10 extraits de films. Alors j'en ai choisi un chaque année, voilà. Et pas forcément les meilleurs, hein. c'est pas l'idée. Mais en tout cas, j'ai choisi un certain nombre de comédies. En revanche, on va pas parler que de comédie aujourd'hui, on va aussi revenir sur l'actualité cinématographique.
Pour ma part, eh bien, ce sera quand même une comédie, oui. Puisque ce sera Play, le nouveau film d'Anthony Marciano avec Max Boublil.
Et moi, ce sera pas vraiment une comédie, Ghost Tropic de Bas De Vos, qui n'a certainement rien à voir avec Raymond De Vos.
J'imagine que non. Et moi, ce sera un film moitié expérimental, parce que c'est entre le documentaire et la fiction, un film en plus islandais, en 56 fragments, et ça s'appelle Echo. Ainsi débute Cinérama.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début.
On commence du coup avec Play de Anthony Marciano. Max, interprété par Max Boublil, ils ne sont pas trop pris la tête pour le prénom du personnage, se voit offrir par ses parents une caméra pour Noël en 93. Il a 13 ans et pendant 25 ans, il va filmer son quotidien, ses amis, ses joies, ses peines et surtout, le plus important, la finale de la Coupe du Monde 98. Lorsqu'il retrouve son caméscope à l'aube de la quarantaine, il décide de revisionner tout cela et de monter tous ces bouts d'existence qu'il a filmés afin de réaliser finalement le film de sa vie.
Chérie, il faut absolument que tu te réveilles. Mais il s'est passé un truc de dingue. Vas-y, réveille-toi. Je t'annonce que notre fille vient de prononcer ses premiers mots.
C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit, et ça tu vas trouver ça incroyable, elle a dit, il faut absolument que maman vienne s'occuper de moi. Elle a pas dit viens, elle a conjugué, vienne s'occuper de moi. Parce que papa, il en a plein le cul. Alors, je lui ai dit, cul, c'est un gros mot, ma chérie.
Troisième collaboration pour Anthony Marciano et Max Boublil, qui avaient déjà fait ensemble très réussi Les Gamins et Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois. Mais ça, tout le monde préfère oublier. Play traduit de façon évidente le plaisir qu'ils ont toujours à travailler ensemble. On sent le film de potes, la complicité. Et pour une comédie, c'est important. Il y a également un plaisir manifeste à ressusciter les années 90 et les années 2000. Mention spéciale à Alain Chabat, rajeuni avec les lunettes qu'il avait dans les sketchs des nuls. Que vous ayez 25, 30, 35 ans, allez même 40 ans, ce film est fait pour que chacun puisse prendre son petit shoot de nostalgie. Le souci, c'est que le procédé de mise en scène est dès le départ un peu bancal, hein, puisqu'il implique que le narrateur soit hors champ, puisqu'il tient la caméra, et que parfois, bah, du coup, il la pose sur un prétexte assez bidon pour pouvoir apparaître quand même de temps à autre à l'image. Alors Marciano et Boublil expliquent qu'ils ont renoncé à pas mal de gags afin que tout le dispositif de found footage movie, puisque c'est de cela dont il s'agit, reste crédible. Sauf que l'on aurait préféré justement eh bien, plus de gags à une pseudo-recherche formelle qui de toute façon ne fonctionne pas. Il y a moult situations que le personnage principal filme auquel on ne croit absolument pas. Par exemple, personne ne se filme lorsqu'il est en train de pleurer après s'être fait larguer. Ou alors c'est que vous êtes à un niveau de narcissisme hyper problématique. Enfin, voilà. Et puis au niveau du scénario, bah, rien de très audacieux quand même. Hein. La vie pour Anthony Marciano semble se résumer à se marier, faire des enfants et mourir d'un cancer. On sent que le réalisateur a surtout misé tout sur le charisme et sur l'humour de Max Boublil. Et c'est vrai que cela fonctionne très bien. On aurait aimé une intrigue un peu plus élaborée, plus qu'une simple histoire d'amour contrariée entre le personnage central et sa meilleure amie, jouée par Alice Issaz. Pareil, on ne croit pas vraiment à cette histoire d'amour contrariée. Si vous savez que Alice Issaz est amoureuse de vous depuis toujours, vous n'attendez pas 25 ans pour qu'il se passe quelque chose. Non, jamais. En revanche, s'il y a un point sur lequel le réalisateur a bien bossé, c'est la musique. On sent qu'il s'en est donné à cœur joie pour préparer une bande-son tout en nostalgie. D'ailleurs, les droits musicaux ont selon ses propres dires, bien plombé le budget du film. Et pour être honnête, eh bien, c'est un petit peu tout ce qu'il nous reste après la projection. La musique, de bonne musique. Le film échoue quand même à offrir de vrais moments de comédie. On a plus l'impression d'être devant une vidéo tournée entre potes qui délirent ensemble. Une vidéo dont nous, spectateurs, on serait finalement un peu exclus. Voilà, c'est le problème.
Play est en salle depuis le premier jour de l'année 2020. Tout comme le film islandais Echo.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
En
On va regarder ça.
L'affiche de Echo de l'Islandais Runar Runarsson. Alors, nom que je trouve bizarre, parce que son, ça veut dire fils. Donc, c'est Runar, fils de Runar. Voilà, bon, bref. Passons ce détail. Donc, avec son image kaléidoscopique, cette affiche est emblématique de ce film qui a remporté le prix du jury jeune à Locarno 2019. Ce qui est très étrange, c'est que le distributeur décide de le sortir une fois Noël passé, puisque le film se déroule à la période de Noël, mais un peu avant. Alors, sapin, cadeau et Père Noël comme décor une fois les fêtes arrivées à leur terme, c'est peu digeste. Le spectateur a toujours le risque d'avoir des renvois de dinde au marron ou de sauterne. Echo est un projet singulier dont le scénario ne suit aucune intrigue. Il n'y a pas de personnage principal. Où s'il y en a un, en fait, c'est la société islandaise et plus largement occidentale que le réalisateur ausculte au moyen d'une diversité de personnages. Echo est la succession de séquences qui n'ont aucun lien entre elles. Quand une séquence s'achève, et on s'y fait très vite, hein, il faut s'attendre à ne plus revoir le personnage qui la quitte, ce qui est un peu retors. Il est quasiment impossible de résumer un pareil film. Dénué de tout fil narratif, il ne repose que sur un dispositif de scènes donc juxtaposées, nous permettant de changer de temps, d'espace et de sujet. Alors, on se retrouve autant dans un centre commercial avec un Père Noël chargé de faire sourire les enfants à la chaîne qu'aux côtés d'un groupe de sportifs à l'assaut d'un volcan enneigé ou de ce qu'on imagine être un athlète étranger qui, après eh bien, sa petite dose d'UV, importante hein, quand même quand on habite en Islande, eh bien, cet athlète appelle sa famille qui, décidément trop loin, eh bien, ne passera pas Noël avec lui. Ce sont 56 scènes de la vie quotidienne qui s'enchaînent pour un film qui, bien sec, s'achève au bout d'1h20. Parmi ces 56 séquences, il y en a qui peuvent retenir notre attention parce qu'elles soulèvent de cruauté, d'ironie ou de drame. D'autres qu'on peut retenir par leur symbolique, comme cette femme qui époussette un magasin de jouets tout en ayant une discussion au téléphone avec ce qui semble être son ex-mari, lui expliquant qu'il viendra pour la deuxième année consécutive eh bien, lui retirer ses enfants pour Noël. Ou cette séquence invraisemblable d'une maison reçue en héritage qu'un homme fait brûler parce que ça coûte moins cher de faire venir des maisons préfabriquées de Pologne que de la retaper. Ce qui fut, est présent et a été la transmission, il en est beaucoup question dans Echo, tout comme des enfants, car si le film ausculte la société, il ausculte évidemment la famille qui en est eh bien, une de ses composantes. Ce qui est troublant avec ce Echo, c'est que cette succession de scénettes ne fait pas forcément une œuvre cinématographique. Si le film semble prendre la forme d'un documentaire, il est au contraire très travaillé avec le son, l'image et des dialogues qui ne sont pas finalement si nombreux. Alors en voulant s'éloigner des codes narratifs, le réalisateur souhaite s'affranchir de la lourdeur d'un récit pour ne garder qu'une forme épurée. Alors il faut reconnaître au réalisateur un talent hein, pour mettre tout de même dans chaque séquence un enjeu de notre société. Alors ça peut être l'égoïsme, l'individualisme, la violence, la compétition, mais aussi des éléments positifs comme le partage, l'amour, l'entraide. Tout semble y être, mais contrairement à 71 fragments d'une chronologie du hasard de Michael Haneke, qui nous montrait 71 séquences pour atteindre un paroxysme et très violent. Ici, l'encéphalogramme reste plat, donc il faut s'y faire. Hein, prendre Echo comme l'instantané d'une société au XXIe siècle dans une île très au nord. Echo, donc, je répète le nom, Runar Runarsson. Alors, ce sera présent dans seulement quelques salles en France, mais quand même, guettez les cinémas qui le projettent. La dérive nocturne dans Bruxelles d'une femme de ménage égarée loin de chez elle. C'est pas une comédie.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Bilal, c'est maman. Écoute, j'ai fait une bêtise, je suis allée tout au bout jusqu'à Herman de Brault. Et là, du coup, il n'y a plus de métro. Tu m'appelles quand t'as ce message ?
Troisième long métrage, inédit, hein, les deux précédents étaient inédits, du belge Bas de Hoos, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Ghost Tropic, séduit dès les premières images par la simplicité du dispositif, son récit ténu et modeste, alors sous forme de road movie minimaliste. Alors Khadija, un petit bout de femme attachante, s'endort dans le métro après une journée de travail. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans un quartier de Bruxelles, très loin de chez elle. Elle n'a pas d'autre choix que de faire le trajet à pied pour rejoindre son domicile. Elle va entreprendre un voyage nocturne au cœur d'une ville étrangement déserte, sorte de no man's land baignant dans une atmosphère à la lisière du fantastique. Au gré de son périple, elle va faire une série de rencontres l'incitant à demander de l'aide, mais aussi d'aider son prochain. La musique, en guitare acoustique comme ça, colle très bien au film. Elle donne une petite idée d'une certaine...
De la mélancolie quand même.
Mélancolie, d'une oui. certaine lenteur aussi, oui. Voilà. Cadré dans un beau 1.33 alternant, plan fixe, savamment composé, et des travelling avant d'une beauté hypnotique sublimant le décor, Ghost Tropic, projet hanté par les attentats de 2016, tente avec peu de choses de dresser un état du monde, d'injecter un peu d'humanité dans une société urbaine qui en manque cruellement. L'influence donc des premiers films de Jim Jarmusch et Wim Wenders est très prégnante, le film n'étant pas une œuvre contemplative. Hein. C'est un peu un terme, d'ailleurs, tarte à la crème. Hein. Quand les gens s'ennuient en général ou ne savent pas quoi dire, on parle de cinéma contemplatif. Mais je dirais plutôt d'errance, une promenade dans une ville ni hostile ni accueillante, perçue à travers le regard plein de douceur de son héroïne. Alors cette douceur passe, et on l'a entendu, par sa voix, très fluette, presque proche d'une petite fille, mais aussi par la lenteur de ses déplacements. Le portrait dressé de ce personnage va finir par toucher, symbolise cette population silencieuse vivant dans la solitude. Son trajet va l'amener à rencontrer un vigile plutôt avenant, un SDF aussi qu'elle tentera de sauver, une employée dans une épicerie. Bas de Vos réussit à faire exister ses silhouettes furtives grâce à une attention aux détails, à la manière de filmer les visages. Cette dimension empathique sauve le film de son austérité formelle, hein, proche parfois de certaines installations vidéo contemporaines, notamment au niveau du traitement de l'image et du son. Alors, si le propos peut sembler léger, hein, laissant notre esprit vagabonder au gré des interprétations, Ghost Tropic demeure un joli film attachant, qui dépasse en fait ce que je dirais le simple exercice de style par le regard qu'il a sur les gens surtout. Le seul défaut peut être une lenteur un peu excessive, c'est-à-dire que le film aurait gagné à être réduit sur une heure. Et le problème, c'est qu'on sort peu de films avec une telle durée.
Et non.
Et c'est dommage, parce que malheureusement,
militons pour le retour des films
oui,
courts.
Mais le film révèle vraiment un cinéaste de talent, et tu sens qu'ils s'obligent à y tirer. En fait.
Donc c'est un film qui est entré dans une nouvelle décennie. Nous, on va revenir sur l'ancienne décennie avec tous les films qu'on a appréciés et jouer un blind test.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Nous avons choisi 5 films et c'est toi qui débutes, Marine.
Alors moi, en fait, comme il s'agit de 5 films avec 5 titres anglais, j'ai décidé de vous les dire en français. Donc je commence avec Le démon de la lumière qui ne met pas en valeur. C'était Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors il est bien loin le temps hein, où, à la manière de Happy Chang Pong, Veracita Cool, les journalistes galéraient à prononcer le nom de Nicolas Winding Refn. Depuis 2010, le cinéaste a réalisé les très lents Drive, Only God Forgive, et donc Neon Demon, l'histoire d'une jeune brebis égarée dans un Los Angeles impitoyable qui ne va pas tarder à se faire vampiriser par les fantômes de la ville, dont Keanu Reeves d'ailleurs, qui pour une fois est dans un rôle ultra sombre. Il y a un peu de Bret Easton Ellis dans ce cauchemar glamour qui mélange monde de la mode, cannibalisme et nécrophilie. Hein, pourquoi bouder son plaisir ?
À toi, Menu.
Alors moi, j'ai choisi, alors je ne vais pas vous le dire en coréen, parce que je commence par un film coréen, donc de Hong Sang-soo, Un jour avec, un jour sans. On va dire, c'est certainement mon film préféré de la décennie. Je l'ai revu 3-4 fois depuis. Et pourtant, sur le canevas, on va dire, un peu conceptuel de « et si j'avais dit ça ou fait ça à la place ?» qui rappelle en fait certains films, notamment Le hasard de Kozlowski,
oui.
Et puis aussi Smoking, No Smoking. Hein. Hong Sang-soo réalise un bijou d'intelligence et d'évidence. Hein. Enfin, il parvient à surpasser même ses modèles en choisissant un angle différent et plus profond, et surtout moins théorique. Et pour peu que l'on goûte à ce cinéma de l'intimité, un alcool précieux, le bonheur est assuré. Derrière son dispositif formel, Hong Sang-soo réalise le plus beau film donc, que j'ai pu voir, qui est une œuvre, je dirais, assez poignante et touchante. Et personne ne filme aussi bien ce que j'appelle, c'est pas la rencontre amoureuse, mais si, c'est l'instant de la rencontre. Voilà.
Allez, moi j'ai choisi 120 battements par minute de Robin Campillo, film sorti en août 2017, film sensible, témoignage à la fois sur un combat politique et sur un combat contre la maladie du sida. Il met l'engagement et la vie au premier plan, tout y est, action, coup de poing, assemblée générale, lutte intrinsèque. Et moi, ça a complètement résonné quand je l'avais vu. Alors, il se trouve que je l'avais vu à Cannes et que c'était un dimanche matin et que c'était très, très particulier parce qu'il y avait quelque chose d'un peu triste et électrique à la fois dans cette salle. Bref, voilà, c'était un très, très grand moment. 120 battements par minute.
Eh bien, moi, je continue avec Max le Foufou, Mad Max de George Miller. La preuve que les suites fonctionnent parfois, George Miller revient à plus de 70 ans, donner suite à la mythique trilogie Mad Max, Exit Mel Gibson. De toute façon, ça tombe bien, je ne l'aimais pas, personnellement. Mad Max Fury Road est mené tambour battant par des femmes, dont une Charlize Theron iconique, pendant que Tom Hardy ne moufte pas trop. Hein. Passer les premières minutes, dont l'hystérie nous font un peu friser la syncope, le film se calme sans perdre pour autant de sa fureur. Et c'est parti pour 2 heures de cinéma d'action haut de gamme à base de courses dans le désert, d'univers steampunk et de combats sur des bolides lancés à toute allure. C'est un pur plaisir visuel.
Et on attend le prochain.
Et je reste en Asie, hein, du côté du Japon, avec un film de Kiyoshi Kurosawa, qui lui aussi a été très prolifique durant toute cette décennie, avec Shokuzai, à l'origine une mini-série de 5 épisodes. Alors le cinéaste, en adaptant un roman à succès, hein, livre un magnifique film de fantômes, fidèle à la tradition du Kwaidan, alors sans que jamais les éléments fantastiques ne soient explicites. En apparence, le film se rattache au récit policier à tiroir. C'est aussi un drame poignant sur la mémoire, une œuvre bouleversante qui dresse un état des lieux d'une civilisation patriarcale brimant les femmes. Mais au-delà de ce discours féministe, qui n'est pas nouveau chez le réalisateur, Shokuzai brise les règles du polar classique pour glisser dans une ambiance vraiment fantastique. C'est presque un film fantastique sans scène fantastique.
Moi, j'ai choisi Claude Atlas des sœurs Warchowski, réincarnation et thème de la Renaissance sous la capuche de la responsabilité. Alors, cette œuvre audacieuse qui mêle les époques et les genres, de la comédie satirique à la science-fiction au film de pirate, a demandé également aux comédiens d'interpréter différents rôles avec changement de genre à la clé. Moi, j'ai été complètement ébloui par cette grande entreprise qui a coûté beaucoup d'argent pour un film estampillé indépendant. Elles se sont retirées du monde hollywoodien, les sœurs Warchowski.
Moi, je poursuis avec « Ça te suit ». It Follows de David Robert Mitchell. Alors pour moi, c'est tout simplement le film d'horreur le plus flippant qui m'ait donné été de voir. D'ailleurs, le terme film d'horreur est presque réducteur. It Follows, c'est un film très beau, très graphique. Et c'est aussi une expérience pour le spectateur qui s'attend à voir surgir la menace qui poursuit l'héroïne de n'importe où et qui se retrouve finalement pendant tout le film à scruter le cadre en se demandant d'où va arriver le danger. David Robert Mitchell, dont It Follows, sorti en 2015, est le premier film remarqué et remarquable, fait de nous des spectateurs actifs et terrifiés, trimballés pendant 2 heures dans une ville de Détroit sinistrée où l'horreur est aussi sociale.
Ce qui fait poser la question finalement, pourquoi aller au cinéma pour avoir peur?
Ça s'appelle la catharsis. C'est comme pourquoi aller voir des films violents, parce qu'on vit à travers les images qu'on ne vit pas forcément dans notre propre existence, et apparemment ça nous fait du bien en fait, comme le disaient certains philosophes grecs.
C'est une thérapie, donc d'accord.
Alors, on ne va pas avoir peur avec le suivant, mais Lars von Trier propose quand même des films, on va dire, assez dérangeants. Et j'ai donc choisi The Host, That Jack Built.
Pourquoi aller voir des films dérangeants?
Parce que je suis dérangé, c'est pour ça la question. Voilà. C'est tout. Alors en plus, ce film peut être perçu comme l'autoportrait d'un artiste rotor laissant exploser à l'écran toutes ses névroses, ses obsessions. Mais c'est sans doute, je dirais, la raison principale pour laquelle j'aime vraiment ce film. C'est que derrière sa grande ironie, Lars von Trier fait preuve de beaucoup d'empathie envers ses personnages de monstres. Et je pense que c'est un cinéaste assez humaniste derrière le côté cynique que l'on met en avant de son cinéma. C'est un peu étrange de dire ça parce qu'on dit souvent que c'est un cinéaste provocateur. Mais moi, je ne vois absolument aucune provocation chez Lars von Trier. Je pense que c'est un très, très grand cinéaste qui s'intéresse vraiment à ses personnages, aussi monstrueux soit-il.
Ouais, moi, je suis de ton avis. Enfin, et Sophie, on lui avait reproché quand même toutes les figures nazies qui s'immiscent dans...
Bon, il y a un tout petit peu de provocation quand même. Allez.
Il faut bien l'avouer. Mais n'empêche que c'est argumenté, ça ne vient pas comme ça non plus. Hein. Voilà, il ne donne pas son avis. Voilà. J'ai choisi Margin Call, mais en fait, j'aurais pu choisir tous les films de J.C. Chandor, parce que pour moi, ils sont tous à voir. Alors, tout ce concerne notre époque. Et là, avec Margin Call, en 24 heures, on reprend le moment où des financiers ont décidé de faire basculer le monde dans la crise financière. Avec ce prétexte, mieux vaut avoir un coup d'avance sur ceux qui ne savent pas encore. Une mise en scène claire avec des personnages qui sont très loin des clichés. Je trouve que c'est très éclairant sur ce qui s'est passé et sur comment le monde est encore conduit, parce que ça n'a pas changé, évidemment. On va faire une petite pause avec le blind test, où on va revenir des films qui ont été projetés durant la décennie. J'avoue que dans les choix, j'ai plutôt choisi des choses... Alors, je crois qu'il y a 50% de comédie. Voilà, je vous donne quelque chose, 50% de comédie, c'est parti.
Tiens, je t'ai ramené mon cahier. Regarde, lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde. Et maintenant, il fait des crêpes sarrasin. Lui, il était président d'un club de quad. Maintenant, il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié.
Mais pourquoi le quad ?
Pourquoi le quad ? C'est des fachos ? Tu savais pas ? Le quad, c'est super facho.
Baya Ben Mahmoud qui couche avec ses ennemis pour les convertir jusqu'à ce qu'elle rencontre un jospiniste interprété par Jacques Gamblin, c'est Marine.
Oui, le nom des gens, pardon.
Film de Michel Leclerc, film de 2010. Et maintenant, un film de 2011.
Je me suis sevré, Carl.
Un drogué ou sevré, il n'y a aucun scénario dans lequel vous travaillez pas pour moi.
J'aurais quoi comme paiement des cigarettes ?
Vous avez commis 17 délits d'initié l'an dernier.
Des menaces sont plus...
Chèque en blanc venant de Dubaï, déversement au Chili, suppression de fonctionnaires. Bravo, c'est très impressionnant.
Vous voulez vous battre contre moi?
Même pas. Et je vous promets que cette liste n'est pas vraiment exhaustive.
Croyez pouvoir émettre pareilles accusations tout en espérant conserver la vie sauve?
Cette réflexion m'indique que vous n'êtes pas du tout prêt pour un duel avec moi.
Maintenant, vous êtes désarmé.
J'ai beau m'être sevré, vous croyez que j'ai rien retenu, que mes synapses sont identiques, que j'ai plus la moindre once de génie?
Très mauvaise idée de m'avoir comme ennemi, croyez-moi.
Cette camionnette va percuter ce taxi.
Quoi?
Le chauffeur est distrait, il écrit un texto, il roule à 50, il a 18 mètres pour s'arrêter, c'est trop court.
Quel camionnette?
Un produit pharmaceutique révolutionnaire qui permet d'exploiter son potentiel au maximum.
C'est Limitless?
Oui, Donnell Burger, avec Bradley Cooper et Robert De Niro qu'on entendait voilà, avec la voix française de Robert De Niro. L'année 2012.
Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Et pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. C'est une carte du ciel.
Non, pas une carte. Une invitation.
De la part de...
C'est de la part de...
C'est Ridley Scott et c'est Prometheus.
Oui, c'est ça. Avec Noémie Rapace, Michael Fassbender et Charlize Theron, donc dans la saga Alien, 2013 maintenant.
Je suis donc bien coupable, Alcès, à votre compte.
Allez ! Oh, excuse-moi, pardonne-moi. Ne fais pas le hurler, le allez.
Je suis donc bien coupable, Alcès, à votre compte.
Allez ! Vous devriez... Attends, Robert.
Je suis donc bien coupable, Alcès, à votre compte.
Allez ! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chat... Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
Quoi?
Mais c'est épouvantable.
Mais non, c'est bien...
C'est pas possible.
Le misanthrope de Molière au cœur d'un film qui lie un ancien acteur de théâtre replié sur l'île de Ré et un vieux beau adulé à la télévision. Le vieux beau, c'est Lambert Wilson et l'autre, on l'a reconnu.
C'était Luquiniste, Alsace ta bicyclette.
Oui, film de Philippe Leguet, l'année 2014.
On s'est jamais débiné, je m'y mets pas aujourd'hui.
T'as dit quoi là?
On va leur tenir tête.
On n'a pas de quoi.
Je vais tenir ce carrefour.
Mais comment ça tu vas tenir ce... Le char est bousillé. Le char est bousillé, patron, putain!
Bah, tu l'as déjà dit.
C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce que tu veux faire? Rester planté ici?
On va tenir ce carrefour.
Tu veux repousser un bataillon SS en restant planté
non,
ici?
C'est pas
on a
ce que
plus
je veux
de char.
Faire, c'est ce qu'on va faire.
Patron,
à
qu'est-ce que tu fais?
Combat, on
comment
maintenant.
Ça, un poste de combat, putain, vu qu'on a plus de char? Comment qu'on va tirer?
On a un canon.
Donne, c'est n'importe
patron,
quoi!
Stop!
Cinq hommes dans un tank américain, hein. Il y a de la bravoure là.
En 1945. Ce film-là, en fait.
C'est Brad Pitt.
Oui. Fury. Et c'est Fury. Voilà. L'année 2015 maintenant.
À part moi, en fait, avant moi.
Mm-hmm.
T'as été qu'avec des mannequins?
Non.
T'as été avec une fille normale, toi?
Comment ça, normale?
Bah, une fille comme moi, une fille normale.
Est-ce que toi, tu crois que t'es normale, toi?
Oui, je suis normale.
Mais j'ai pas normal du tout, toi.
Si, mais tu vois, tu m'as compris.
Écoute, j'étais plus jeune, j'étais un peu con, j'avais envie de me mettre avec des filles belles parce que ça me rassurait, je me disais voilà, il y en a, c'est les voitures, moi c'était les jolies nanas, voilà, c'est tout, bah, tiens, on fait vite le tour, hein. Regarde.
Une femme sous l'emprise d'un homme et d'un amour impossible.
C'est mon roi.
Film de Mai Wen, ça te désole, on a l'impression. Avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco que nous entendions l'année 2016.
On dort où ce soir là?
Eh ben on est mardi.
Mercredi 9.
Donc le deuxième mercredi de.
On est où là? On est chez moi.
On est chez toi.
Donc. Non, t'as sauté une bosse?
Non, janvier, février, mars. Il y a combien de jours en mars?
31.
Eh ben donc le deuxième mercredi des mois en 31 jours, c'est chez toi, c'est chez papa.
Chez papa, mon ange.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
On a trouvé un super système.
Bah ouais, ça a l'air.
Ça s'est mis en place tout seul.
Et Emma, elle s'en occupe beaucoup, alors...
Vincent, pardon. Je me suis trompée. Je dois récupérer le 14 du mois d'après.
Ah, ouais.
Désolée.
Emma? Emma? Excuse-moi, ma puce, on s'est trompé. C'est chez maman ce soir. Reviens.
Bon, un couple de divorcés qui fait tout pour ne pas avoir la garde des enfants.
Papa ou maman, elle a oui. Deux du coup.
Ouais, c'est le 2. C'était en 2016 et le 1 était sorti une année auparavant. Maintenant, l'année 2017.
De toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. C'est les sommes, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pain de mie chimique. Enfin, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Non, mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien.
Alors, attends. Pandémie.
Pardon?
C'est pas pain de mie, c'est pandémie.
Quoi?
C'est une putain de pandémie.
Non, c'est pas vrai.
T'es débile toi en fait.
Pandémie, c'est une pandémie.
Elle est débile.
On a beaucoup aimé autour de cette table.
Oui.
Et oui. Deux Parisiens qui échouent dans une ZAD alors qu'une pandémie sévit. C'est...
C'était Problemos.
De Éric Judor, avec Éric Judor et Blanche Gardin notamment. Ouais. Un film qui n'a pas fonctionné. Moi, je recommande à tous les auditeurs.
Tout à fait.
La meilleure comédie de la décennie, moi, pour moi.
Ah, bah, carrément.
Voilà.
Oh, j'ai eu raison de le mettre. Allez, 2018.
Si tu veux en faire un fantôme, et comme ça te chante, mais je t'en prie, ne la laisse pas attendre ton bon vouloir. Je l'apprécie énormément.
Oh, tu l'apprécies énormément, vraiment. Eh bien, tout c'est clair.
Non, ne t'en prends pas. Moi, je ne veux pas de ton orage sur ma tête.
Oh, tais-toi, je t'en prie.
Tu devrais te taire toi-même. Ne te bats pas contre moi, tu n'en sortirais pas vivant. Je te mettrai à mort et c'est toi qu'on ramasserait en mille morceaux. Tu en es conscient?
Un amour vénéneux qui touche un célibataire endurci dans le Londres des années 50.
Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
Oui, avec la voix française de Daniel Day-Lewis qui ne vaut pas grand-chose. Dernière année, c'est l'année 2019.
T'as quel âge, toi?
15.
15 ans? Et à 15 ans, tu fumes? Ça sent le shit, ça. Hein? Bon, il est où? Tu l'as mis
vous
où?
Vous avez pas le droit de
m'offrir. Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de m'offrir comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère.
On saura dans quelques temps si c'est le meilleur film étranger aux Oscars, c'est...
Les Misérables.
Film de Ladjili, donc pour clore ce blind test spécial décennie. Par contre, on n'en a pas fini avec les films qu'on a appréciés. On en avait choisi 5, alors on continue, Marine.
Eh bien oui, ben moi c'est Laurence de toute façon, ou autrement dit Laurence Anyways de Xavier Dolan. Pendant que tout le monde en sens Mommy qui a révélé Xavier Dolan au grand public, eh bien le monde passe à côté de ce qui est pour moi son meilleur film. Laurence Anyways, c'est un film qui célèbre l'amour au-delà du genre. C'est un drame romanesque d'une justesse impressionnante pour un réalisateur qui n'a à l'époque que 24 ans et qui signe un film d'une maturité remarquable et d'une créativité débridée, avec la musique de Moderat en intro.
Et moi, je ne sais pas qui je vais surprendre, mais Passion de Palma. Alors, toutes les obsessions de Palmienne refont surface dans Passion. Hein, c'est un thriller érotico-politique qui marque le retour gagnant d'un cinéaste qui était quand même un peu au fond du trou à ce moment-là. Hein. On y retrouve le double, la gémilité, les masques, tout ça sont des signes portés à un haut point de fétichiste. Le cinéaste, il érotise le moindre de ses plans qui baigne dans une... Enfin, formellement, je trouve superbe. Il a pris le chef-op d'ailleurs d'Almodovar. Et je trouve que c'est un film vraiment remarquable qui renoue avec les meilleurs de Palma du début des années 80 comme Pulsion.
Bon, on rappelle que tu es un grand adorateur de Palma. Moi, j'ai choisi Dunkerque de Christopher Nolan, mais ça aurait pu finalement être Interstellar. Mais là, c'est dans la vision de Dunkerque que j'ai pu sentir la limite entre le divertissement au rythme soutenu et l'œuvre de cinéma. Le découpage du temps et de l'espace y est exemplaire, selon moi. Je l'ai vu en IMAX 3D et l'immersion était vraiment totale. C'était pour le coup un vrai plaisir de spectateur, une espèce de jubilation à voir ce Dunkerque donc, qui est sorti en mai 2017.
Eh bien, moi, je vais terminer avec La Honte, Shame, de Steve McQueen. Alors, Steve McQueen, qui a un homonyme assez célèbre. Heureusement, il y en a un des deux, quand même, qui est mort. Ça simplifie les choses. Oui,
pourquoi,
l'acteur est mort, en fait. Comme ça, on ne le confond pas avec le réalisateur Steve McQueen, donc, voilà, qui est anglais, qui, lui, n'a encore que 50 ans, et donc plein de films à faire. Si la décennie aura plutôt retenu 12 Years a Slave comme le chef-d'œuvre de Steve McQueen, Oscar du meilleur film en 2014, je suis pour ma part davantage cliente de ses premiers films, surtout de Shame, sorti en 2011. C'est le film qui a révélé Michael Fassbender dans le rôle d'indépendant sexuel. Depuis, il a joué X-Men, Macbeth, Steve Jobs. Dans Shame, son parcours de trader obsessionnel dans un New York impersonnel et froid est filmé comme on filmerait la descente aux enfers d'un drogué. C'est un film glaçant et vraiment magnifique. Pas très drôle.
Et moi, je vais terminer avec un film qui n'est pas très facile, qui est même plutôt difficile. The Assassin de Wu Shaoxian. Mais la singularité vraiment profonde du film est de faire cohabiter, je dirais, dans un même esprit d'exigence, une œuvre vouée à la fois à la rêverie, fabuleusement mise en scène, c'est très beau, très chorégraphié, et avec un récit à l'intérieur qui est très, très complexe. C'est-à-dire qu'il faut le voir au minimum deux fois, ce film. Une première fois pour apprécier la beauté plastique du film, et une deuxième fois pour comprendre l'histoire. D'ailleurs, je me demande, en discutant d'ailleurs autour de moi, je ne connais pratiquement personne qui a compris dès la première vision, alors qu'il y a un récit vraiment intéressant.
Bah, c'est peut-être le cas, non pas forcément de Holy Motors, ce sera mon film.
Oui, c'est différent
mais
quand même. Hein.
Mais je pense qu'on peut le voir deux fois aussi. Voilà, jamais je renierai un Léos Carax, surtout qu'ils mettent du temps à arriver, les Léos Carax. Film sorti en juillet 2012 sur le cinéma, sur l'illusion. Il y a tout un tas de choses intéressantes à voir dans ce Holy Motors, qui n'a pas si bien fonctionné d'ailleurs dans les les salles. 180 000 spectateurs en France.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, on reprend le cours normal de l'émission. Moi, j'aurais vu Les Siffleurs, film du roumain Corneliu Porumboiu.
Et moi, deux films asiatiques, First Love de Takashi Miike et Nina Wu.